Eh oui, un petit loupé. Salut les Marc, salut les Smart, bienvenue dans Catch Up. Désolé pour les petits problèmes de montage. Et oui, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Je suis Ringside et je suis accompagné de Giscal. On va vous résumer toute la semaine de la WWE. Comment vas-tu, Giscal?
Écoute, ça va très bien. Et toi, Ringside, comment vas-tu?
Ah bah, j'ai la pêche, il fait chaud, je transpire,
Il fait chaud, ouais.
mais
Ça, je
tout
pense
va
que
bien.
tout le monde est dans ce cas-là, malheureusement.
C'est ça, exactement. On souffre, mais avec le sourire. Alors, pour les gens qui arriveraient dans le chat ou quoi, n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne correctement. Je vais essayer de voir en même temps si tout va bien. Ici, je ne sais pas, mais tout a l'air bien. Ok,
On verra
alors,
bien.
on verra bien. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester s'il y a le moindre souci. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine à la WWE? Beaucoup de choses, hein, puisque on était le 30 juillet, que ce soit Monday Night Raw ou le 31 à SmackDown. Le
Absolument.
fil rouge de Raw, hein, c'est ça qu'on veut savoir, qu'est-ce qui se
Et
passe?
oui.
C'est la Brock Lesnar qui est là cette semaine et qui a pas trop envie de bosser. Donc ça va être ce qui va nous occuper un petit peu tout le long de l'émission. Bon, comme maintenant c'est la nouvelle formule de l'été, vous savez, on peut pas parler. Donc il y a certaines choses dont on ne parlera pas. Par exemple, Bobby Lashley qui a un nouvel ennemi, c'est Elias. On verra ça la semaine prochaine. Hein. T'avais peut-être envie de dire un petit truc là-dessus?
Bon, si
Non,
ce n'est
hein.
que c'est bien pour Elias, c'est mieux pour Elias que pour Bobby Lashley, je pense, tout ça.
C'est pas faux.
Mais c'est bien pour lui, c'est bien.
C'est bien, hein, quand même. Apollo fucking Crews a battu Akam. C'est la rivalité entre les Authors of Pain et Titus Worldwide qui continue. Rien que de très classique.
Non, sacré montée pour les Authors of Pain, hein.
Ouais, c'est ça. Bah, rien encore. C'est l'arrivée, hein. On est
Ouais,
rodé. On
tranquille.
va qu'on a 6 mois pour battre Titus Worldwide, puis c'est tout. Bayley et Sacha ont battu le Riot Squad. Donc quand même, on est rassuré parce qu'elles sont de nouveau copines.
Sont de nouveaux copines, donc c'est vrai qu'on est content. Elles ont même lancé un nouveau nom d'équipe avec elles ont mis des trucs sur leurs pantalons et leurs slibards et tout là. Bientôt les t-shirts peut-être. Attention, hein, c'est
C'est ça.
gros potentiel merchandising là.
Ça va cartonner. Je pense que ce sera le main event de Evolution.
Sans doute, sans doute.
C'est ça, exactement. On reste dans les tag teams avec The Revival qui s'incruste dans la course au titre tag team. Avec
Et
une
oui.
victoire quand même sur les Deleters of World. Hein. On a eu la suite un petit peu de cette rivalité entre Bray Wyatt, Matt Hardy d'un côté et les champions actuels qui sont, je vous le rappelle, The B-Team. Hein, donc Curtis Axel et Bo Dallas. Et The Revival s'est incrusté pendant leur petit segment où ils s'engueulaient. D'ailleurs, en précisant qu'ils ne comprenaient rien à ce que racontaient les Deleters of World, ce qui était assez drôle. Ils ont rappelé qu'évidemment, ils avaient battu déjà Roman Reigns et Bobby Lashley. Et puis, il y a eu un petit match, ils ont battu les Deleters of World.
Et voilà, très
Voilà.
bien pour le revival.
C'est
Ça y
ça.
est,
Ça y
ils
est.
se remettent un peu en selle, enfin, pendant que les Deleters of World s'effacent tout doucement. Donc, on va peut-être repasser un peu à des choses plus sérieuses dans la division Tag Team Arrow, on ne sait pas. On va voir.
On espère, on espère. Oui, il faut bien qu'ils débutent quelque part, hein, The Revival, quand même, ils n'allaient pas passer leur
Oui.
vie dans les vestiaires. La rivalité Seth Rollins-Dolph Ziggler, ça continue. Encore une fois, un match entre Rollins et Ziggler.
Oui,
Oh,
encore un, ouais.
encore un. Joli match d'ailleurs, hein, c'est le bon match de la semaine de Rollins. Ça se termine sur une disqualification, puisque évidemment Drew McIntyre est venu avec Dolph Ziggler, et puis quand Ziggler est à 2 doigts de perdre le match, ben, il rentre dans le ring, il casse l'action.
Oui. D'ailleurs, oui, le match était contre McIntyre, pas contre Ziggler, contrairement à ce que
À ce que
t'as
j'ai
dit,
dit?
je crois.
Ah ouais, c'est possible. Je ne sais plus maintenant, tout se mélange dans ma
Mmh.
tête. Il avait un joli look d'ailleurs, ce bon vieux Ziggler.
Oui, ils tentent des choses là.
C'est
Ouais.
ça, exactement. Donc voilà, bah Rollins se fait attaquer aussi après pendant une interview où notamment il se fait bien casser la gueule. Voyons voir. Alors, c'est ça que je voudrais, c'est possible ou pas? Tic-tic-tic. Voyons
Qu'est-ce que tu
voir.
cherches?
Je fais un peu de. Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Hop. Mais alors, quand je clique dessus, ça marche pas. Non. Bon. C'est nul. C'est nul.
Non.
Alors, ah si, ça arrive, attendez. Hop. Voilà. Professionnalisme, quand tu nous tiens. Alors, puisque je suis à la réalisation en même temps que je vous parle, qu'est-ce qu'on parlera pas non plus? Bobby Roode qui s'est battu avec Mojo dans les vestiaires.
Oui, ouais. Sacré Bobby.
Sacré Bobby, sacré Mojo.
Sacré Bobby. Ouais. Du
Mais
bon boulot encore de Bobby Roode, hein, ouais, qui ne cesse de nous émerveiller.
c'est vrai, franchement là, on est bien content qu'il soit arrivé. Alors, ah bah tiens, Richard est arrivé dans le chat. Hein. Bah, n'hésite pas à nous dire si ça fonctionne
Ah, bonjour à
correctement, parce
Richard.
que je suis un peu à l'aveuglette là. Mais c'est pas bien grave. Allez, on va arriver aux choses sérieuses en même temps que Richard est arrivé. Les gros titres de cette émission, Ronda Rousey qui rentre en feud avec Alicia Fox. Alors vous
Tu
allez me
nous as gardé
dire,
le meilleur.
ah là je vous ai gardé le meilleur. Hein. Alors on a eu un match super nul entre Alicia Fox et Natalia, évidemment. Il y a eu interférence de Alexa Bliss, victoire d'Alicia Fox, et puis là-dessus Ronda Rousey s'en est mêlée, hein, parce qu'elle a accompagné Natalia évidemment au ring. Elle a pété la gueule un petit peu à Alicia Fox, mais Alicia Fox s'est vite relevée. Elle est venue l'attaquer dans le dos pendant qu'elle essayait de s'occuper de Alexa Bliss, qui avait très peur quand même hein, de Ronda. Et donc, on aura le premier match de Ronda Rousey la semaine prochaine à Raw, le premier de
Et oui.
l'histoire. C'est surtout ça qui est important. C'est pour ça que ça fait les gros titres. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que Alicia Fox à WrestleMania, si je dis pas d'erreur, elle a eu une altercation avec le mari de Ronda Rousey
Ah bon? Ah.
dans les vestiaires. Alors sachant qu'elle avait été blessée, qu'elle n'aurait pas dû être là, et puis qu'elle a été carrément virée du stade, hein, et puis on lui a demandé de plus revenir. Donc moi je ne donnais pas cher de la peau d'Alicia Fox à la
Oui,
WWE.
clairement.
Mais eh ben, il s'avère que elle est toujours là et elle a le droit d'affronter Ronda pour le premier match. Donc c'est assez curieux pour la semaine prochaine. Ceci mis à part, qu'est-ce que tu as comme réflexion sur ce début de carrière de Ronda à Raw?
Écoute, je me dis, moi, ma réflexion, je me dis que SummerSlam, j'aimerais bien que ça arrive vite, en tout cas de ce que en partie du côté de cette histoire-là, parce que j'ai un peu l'impression qu'on patauge un peu dans la semoule. Ils savent plus trop quoi un peu inventer pour gagner du temps dans cette histoire. Ils ont essayé de gagner du temps avec le coup de la suspension de 2 semaines, qui a été prolongée d'une semaine. Et puis là, maintenant, on essaye de nous de jouer la montre avec Alicia Fox, qui va du coup occuper Ronda Rousey la semaine prochaine. Tout ça fait que, bon voilà, Ronda Rousey garde toujours ce charisme presque enfin, assez mystérieux. On a du mal à s'expliquer à quel point, voilà, quand elle est à l'écran, elle captive quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est pas forcément ultra ultra intéressant tout ce qui se passe pour le moment. Donc on écoute vivement. Moi, ce que ça m'inspire, c'est vivement SummerSlam, que Ronda Rousey ait son petit match, qu'elle gagne la ceinture. Qu'on passe à autre chose, parce que ce petit carré là avec Alexa Bliss qui change un petit peu d'allié suivant les semaines, c'est pas très passionnant, voilà tout ce qui se passe pour le moment.
Ouais, on a envie de voir plus Ronda dans le ring et puis peut-être affronter des adversaires un peu plus
Ouais.
intéressants que ce qu'il y a dans le bas de tableau.
C'est ça. Bon.
Mais bon, moi je m'inquiète
Bon, pour
pas.
la démarche.
Voilà. Il faut bien qu'elle démarque quelque part aussi.
Oui.
Et puis on s'inquiète pas trop pour les performances de Ronda. Mais il faudrait quand même que maintenant, voilà, on la voit un peu plus dominée. Ce qui me pose un peu problème, c'est qu'Alicia Fox revient très vite. Après cette prise, le finisher de Ronda. Mais bon, c'est
C'est
peut-être
le
parfois
finisher, c'est quoi? C'est ce
une espèce
sorte
de Samoan
de
drop qui tourne. Hein.
comment?
Le Samoan drop qui tourne comme ça.
Ah oui, oui, c'est vrai que tu me diras, ça a l'air d'être un peu ce qu'ils vendent comme étant son move. Bon, après, c'est difficile de. Je pense que c'est difficile d'identifier vraiment un finisher encore, étant donné qu'elle n'a pas eu de vrai match un contre un, mais bon. C'est
C'est
vrai
pas
qu'elle
faux.
est
Puis elle est plutôt
sur le logique.
sur des prises de soumission. Mais bon, je trouvais qu'Alicia
Ouais.
Fox se relevait un peu vite. Elle était un petit peu pimpante en se relevant. Mais bon, c'est pas nouveau qu'Alicia Fox, elle est pas très douée, pas très convaincante, hein.
Ouais, pas le sens du timing, mais bon. De toute façon, a priori, sauf catastrophe, on devrait se diriger vers un petit match d'une minute trente la semaine prochaine avec un armbar et puis on n'en parle plus. Hein.
Oui, pas plus, je pense, effectivement. Quelqu'un qui a pas le timing non plus, Braun Strowman. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour Braun Strowman? Il doit affronter Jinder Mahal, hein, parce qu'ils ont eu une petite altercation la semaine dernière. Je vous rappelle que Braun Strowman est le détenteur de la manette du Money in the Bank, hein, le Money in the Bank contract, et que surtout il avait dit qu'il cacherait dès que Brock Lesnar sera là. Et Brock Lesnar est là, mais apparemment Braun Strowman finalement il n'a pas envie de cacher son contrat. De valider le contrat, il préfère affronter Jinder Mahal. Et là-dessus, il y a Kevin Owens qui débarque pendant le match, qui vient piquer la mallette, et Braun Strowman lui court après. Et du coup, il est décompté à l'extérieur du ring, donc il perd le match. Jinder Mahal, victoire facile pour lui contre Braun Strowman. Et Braun Strowman, donc cet abruti qui va pas valider sa mallette comme il nous l'avait promis. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça, mon bon?
Écoute, ça m'a pas trop dérangé cette affaire. C'est vrai que j'avais pas, tu vois, comme quoi je suis vraiment un bon témoin du public lambda de la WWE à la mémoire de Poisson Rouge. C'est vrai que j'avais un peu oublié que il nous avait promis qu'il allait cacher sur Brock Lesnar. Bon, écoute, c'était suffisamment, enfin les deux étaient suffisamment bien éloignés scénaristiquement pendant cette émission, on va dire, avec voilà. Braun Strowman qui était perturbé par le moucheron Kevin Owens qui lui tourne autour et sa mallette et puis Lesnar était avec son fil rouge dans le main event pour que enfin moi ça m'a pas traversé forcément l'esprit pendant le show mais c'est vrai que tu as raison moi je préfère en tout cas comme ça que Braun Strowman soit pas forcément à tout le temps parler de Brock Lesnar et qu'il essaye de s'éloigner un petit peu de tout ça, mais ça c'est des raisons. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera du cas Reigns-Lesnar, parce que idéalement, j'aimerais que ce cash-in soit dans le plus tard possible. Sinon, ce qui s'est passé cette semaine autour de Braun Strowman, moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Je trouvais ça marrant. Le Kevin Owens, c'est plutôt bien dans son rôle, que ce soit sa petite altercation avec Baron Corbin en coulisses ou autour du ring quand il a essayé de piquer la mallette. C'est pas mal. Tu sens que voilà, il a décidé. Et quand Kevin Owens décide de faire chier et de pourrir la vie de quelqu'un, il sait faire. Donc il a décidé qu'il allait casser les pieds de Braun Strowman. Donc c'est assez fun. Et puis bah écoute, donc voilà. Maintenant la question est de savoir est-ce que Kevin Owens va réussir à prendre cette mallette à SummerSlam? Est-ce qu'il va réussir à casser le cash-in de Braun Strowman? C'est vrai que voilà, il y a une le fait qu'il ait cette petite épine dans le pied, je trouve, c'est assez sympa à suivre. Donc voilà, pour le moment, moi je me divertis plutôt bien.
Ouais, bah c'est deux bons clients, hein, Braun Strowman et Kevin Owens, hein, c'est un peu les mecs les plus fun du roster, hein, à Monday
Ouais.
Night Raw. Maintenant, c'est un peu dommage qu'elle soit faite à l'envers, cette rivalité, je trouve, parce que c'est plutôt Braun Strowman qui a martyrisé Kevin Owens pendant un bon
Oui.
moment. On est
C'est
encore
vrai qu'on peut
loin.
comprendre pourquoi il a envie de se venger un peu, quoi.
Ouais, voilà. C'est la vengeance de Kevin Owens, c'est tout à fait légitime. On espère bien qu'il va gâcher le cash-in de Braun Strowman. Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir Braun Strowman être champion universel à la place de Reigns ou de Lesnar. Maintenant, au moins on a une rivalité qui est un minimum distrayante. On aime bien Kevin Owens,
Ouais.
on aimerait voir un peu plus.
Écoute, c'est
Mais
distrayant, il y a de l'enjeu,
voilà. Après, il
il y a des
faut.
ramifications qui peuvent être assez importantes quand même, donc du coup, moi, ça me convient.
Parce que ça peut déboucher aussi sur un Kevin Owens avec la mallette.
Oui.
Bon, maintenant reste que c'est encore une fois un traitement de babyface qui est un petit peu bizarre, hein, parce que c'est pas franc du collier le côté babyface de Braun Strowman. C'est pas la
Non, c'est
première
moins qu'on puisse
fois.
dire, ouais.
C'est pas la première fois et on sait que sur le long terme c'est un petit peu problématique tout ça. Mais bon. Au moins, ça génère effectivement des possibilités pour les intrigues futures. Alors, Autre chose que je trouve assez rageant, Finn Balor qui perd clean contre Baron Corbin
Oui.
dans un match très long et pas très intéressant. Encore un babyface qui perd. Qu'est-ce qui se passe? C'est
Oui.
Baron Corbin qui a un méga push, c'est ça, le Constable Corbin, le gendarme Corbin. Qu'est-ce
Bah,
que
il
tu
faut
en penses de
croire.
ça?
Bah, de toute façon, c'est ce qu'on lit un petit peu derrière ce résultat. C'est un résultat qui est un peu étrange parce que c'est vrai que ça se fait aux dépens, ça se fait aux dépens d'un babyface qui un petit peu sans raison. Ou alors, en effet, si la raison c'est il faut pusher le Constable Corbin, écoute. Écoute, pourquoi pas, si, s'il y a quelque chose de prévu pour Corbin, moi, c'est pas un résultat qui me choque forcément, mais c'est vrai que ça se fasse aux dépens de Finn Balor, c'est un peu curieux parce que on a le sentiment il pourrait faire mieux, il garde malgré tout de très très belles réactions, il est apprécié, il est over malgré tout ce traitement-là. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un peu dommage de le. D'empiler un peu des résultats comme ça négatifs sur Finn Bálor. Je comprends pas trop. Pour le moment, je comprends pas trop l'optique. En fait, c'est un peu ça, c'est que ces résultats tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, puisque Baron Corbin n'est pas impliqué dans une histoire de haut profil qui pourrait justifier le fait que bon bah voilà, il a besoin d'un gros résultat pour se lancer vers quelque chose. Pour le moment, c'est vrai que c'est juste un peu là. Tu comprends pas trop. Voilà. Tu te dis bon, pourquoi est-ce qu'ils font perdre des mecs qui ont le potentiel d'être de très bons aspirants à des ceintures en tant que babyface. C'est pas comme ça que tu imagines booker un face. Mais bon, les mystères du
Et
booking.
Baron Corbin, t'as encore de gros espoirs sur lui? Je sais que c'était votre chouchou à SmackDown.
Écoute, je trouve personnellement qu'il s'en sort pas trop mal avec cette petite gimmick là. Alors, c'est pas, je dis pas que c'est le point que j'attends le plus chaque semaine dans l'émission, mais je trouve qu'il a réussi à trouver un petit positionnement qui en tout cas fait que son personnage est un minimum divertissant. Il est toujours impliqué de manière soit drôle, soit un peu ridicule dans ses segments. Voilà, il sait en tout cas susciter des réactions du public. Je trouve que c'est différent de il y a quelques au début de son run de Constable où c'était vraiment les criquets quand il faisait des promos. Là, que ce soit la semaine dernière ou je sais plus, non je sais plus c'était la semaine dernière non c'était il y a 2 semaines avec les filles ou même tous les segments qui l'impliquaient avec Kevin Owens avec Kurt Angle et tout il commence à bien maîtriser son rôle. Après, ça reste un catcheur qui est en effet assez limité en 1 contre 1, donc on l'imagine assez peu se projeter vers un gros run sur une ceinture solo. Mais bon, voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, je trouve que voilà, dans son rôle de semi-figure d'autorité catcheur utile dans le roster en tant que heel badass, il commence à faire un peu son trou. Donc je ne perds pas espoir, mais j'ai pas non plus des espoirs monstrueux dans Baron Corbin.
D'accord, parce qu'il se susurre que ce serait peut-être l'aspirant numéro 1 une fois que Roman Reigns
Oh
serait
là,
champion.
eh ben écoute. Bah, à ce moment-là, oui, ça c'est différent parce que du coup il serait aspirant mais chair à canon un peu entre guillemets parce que du coup ce serait pour a priori construire un peu des victoires pour Roman Reigns. Donc si c'est dans cette optique-là, je trouve qu'en effet c'est bien. Il pourra avoir le profil pour ça. Mais
Il
bon, je vois
pourrait,
pas beaucoup plus haut quand
mais il ne l'aura pas.
même.
Bon, avançons, avançons, avançons. Voilà le fil rouge de l'émission, Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est un mauvais champion, peut-être le plus mauvais champion de l'histoire.
Doute.
Sans doute, hein. C'est Roman Reigns
Kayfabe et hors kayfabe,
qui est faible et hors qui est faible. Ça se discute. Roman
ouais.
Reigns, c'est lui qui démarre l'émission d'ailleurs. Il va faire une promo où en gros. Il annonce que Brock Lesnar va devenir sa bitch hein, à SummerSlam.
Marche toujours, ça.
Ça marche toujours, hein, il dit que voilà, hein, il se casse le dos comme tout le monde et que Lesnar lui n'en a rien à foutre. Mais en tout cas, il va le renvoyer à l'UFC mais sans la ceinture. Il y a Paul Heyman qui débarque, qui dit que oui, Brock Lesnar est dans les coulisses mais il n'a pas trop envie de venir sur le ring. On explique à Roman Reigns Roman Reigns est un peu fou parce qu'il réitère un peu toujours les mêmes choses en espérant un résultat différent.
Oui, c'est la définition de la folie.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Mais bon, Roman Reigns ne s'en laisse pas compter. Hein. Voilà, il va faire de Brock Lesnar sa bitch. Alors, les gens sont contents, hein, puisque pour la première fois, il est un petit peu popé, Roman Reigns, quand il critique les Snarls. Les gens commencent vraiment à détester les Snarls.
C'est surtout ça, je pense. Ouais,
ouais c'est ça. Hein, c'est plus les gens qui détestent les Snarls que les gens qui sont pour Roman Reigns.
Je pense un peu, malgré tout l'amour que j'ai pour Roman Reigns, je pense que c'est plus ça.
C'est ça. Alors, Brock est dans les coulisses, il lit des magazines de chasse, visiblement. Ou le messager boiteux américain, je ne sais pas. Il y a Paul Heyman qui débarque et qui lui dit bah, t'avais entendu ce qu'a dit Roman Reigns, tout ça, c'est pas possible, il va falloir que tu ailles au ring et tout. Brock Lesnar, il dit non, mais moi je regarde pas l'émission, ça m'intéresse pas. Paul Heyman lui dit quand même il faut que tu vendes tes t-shirts, alors va te montrer quand même un petit peu. Il essaye de lui montrer sur son téléphone les images de Roman Reigns. Là-dessus, Brock Lesnar s'énerve, il prend le téléphone, il explose. Donc voilà, Paul Heyman a fait chou blanc. Un peu plus tard dans l'émission, Roman Reigns est escorté hors du building. Hein, on apprend que c'est une demande de Stephanie McMahon qui a appelé Kurt Angle. Et tout est Kurt Angle est en négociation assez musclée avec Paul Heyman hein, pour faire venir Brock. Hein, il oui. menace Paul Heyman de tout simplement virer Brock Lesnar et Paul Heyman, puisque Paul Heyman c'est pas juste l'avocat de Brock Lesnar, mais c'est aussi un employé de la WWE. Donc le job de Paul Heyman est en jeu. Donc Heyman va aller encore une dernière fois supplier Brock Lesnar. Roman Reigns quand il se fait escorter hors du building, il met une petite droite au Baron Corbin qui était là à se marrer.
Pour bonne mesure.
Pour
oui.
bonne mesure, voilà, bien fait pour sa gueule aux gendarmes. Et donc, à la fin de l'émission, Brock Lesnar finit par venir au ring. Mais il vient surtout pour casser la gueule de Kurt Angle. Hein, parce que,
oui.
Voilà, on n'aime pas trop qu'on le force à faire des trucs. Et il va même menacer Paul Heyman hein, en lui expliquant qu'il faut faire attention. C'est pas son ami, hein. Paul Heyman, c'est son employé. Il bosse pour lui, donc maintenant il va falloir se calmer là-dessus. Et il fait aussi peur au baron, hein, Brock Lesnar.
Un petit peu, oui.
Voilà, tu veux te battre hein. Non, le pauvre baron, il a peur, il s'échappe. Voilà, donc Brock Lesnar qui se retourne contre Paul Heyman, hein, grosso modo.
Oui.
Et, quand même... et Roman Reigns qui est bien grossier comme garçon. Ça fonctionne, ça y est. On va y arriver à ce
Écoute,
Roman Reigns adoré des
fous. On va y arriver, on va y arriver. Enfin, il faut qu'on y arrive en fait. C'est un peu toujours ça, la conclusion. Chaque fois qu'on parle de cette affaire, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on passe ce cap pour passer à autre chose. D'un point de vue purement personnel, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fichu ce qui s'est passé cette semaine. Brock Lesnar était détestable au possible, et on sent que ça commence à fonctionner. Alors, ça commence à fonctionner, il ne faut pas se leurrer, il y a forcément un peu un mix de bonnes hits et de mauvaises hits dans la hit que reçoit Brock Lesnar. Je pense que le public en a ras-le-bol de ce champion qui n'est jamais là. Alors, la WWE embrasse un peu le phénomène et du coup joue la carte à fond. Enfin, là, c'est vraiment... c'était on grossissait le trait à fond cette semaine, je regarde pas le show, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde tous, j'emmerde même mon avocat, je mets des F5 au commissionneur, enfin voilà, c'est là on est au summum du trolling entre enfin voilà, on est Brock Lesnar sans branle. Donc du coup on joue à fond sur cette mauvaise hit un peu qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai que c'est bien de susciter pas de la haine, mais enfin en tout cas des huées sur un heel, c'est positif, c'est ça qu'on cherche. Mais on cherche avant tout à susciter des huées parce qu'on a envie de voir le mec se faire botter le cul, on a envie de le voir perdre sa ceinture, pas parce qu'on a envie de le voir disparaître de son écran. Et là c'est un peu ce qui se passe, on sent quand même que voilà, il y a un ras-le-bol. Brock Lesnar a certes de la hit, mais on en a un peu marre. Mais bon, toujours est-il qu'il reste 2 semaines, la WWE joue cette carte à fond, ça a plutôt bien fonctionné, ça a plutôt même rendu service à Roman Reigns par effet ricochet, parce que Roman Reigns dans sa promo d'ouverture a été... bon, déjà, elle était plutôt pas mal, sa promo d'ouverture. Ouais. Écoute, bon, il n'a pas réinventé la roue, mais c'est une promo un peu badass, avec des couplets bon, classiques, hein. Ouais, moi, je suis là tout le temps... il s'en fout de vous, je vais faire de lui ma bitch. Alors ça, c'est la punchline ultra standard du top babyface quand il veut faire genre qu'il est ultra vénère. Du coup, Cena l'a déjà fait, le Rock le fait, c'est... voilà, quand tu sors le B-word, c'est que t'es très très sérieux. Donc là, ça rigole pas.
C'est le seul mot qu'ils ont le droit d'utiliser un peu grossier. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est le petit plus qui fait que, oh là, ok, là ça va chier. Non, mais bon, écoute, voilà, la promo était pas mal. Pendant le segment final, il faut quand même se dire que le public carrément chantait We Want Roman quand même pendant que Brock Lesnar tabassait Angle puis Heyman. Donc, voilà, par ricochet, ça fonctionne quand même un peu, mais ça atteint pas des sommets. Et est-ce que ça va fonctionner à Brooklyn? Ça, c'est une autre question.
C'est pas le même public, hein.
C'est une autre question.
Je crois qu'on était à Tampa, en Floride, là, non?
Ouais, on était à Tampa, en Floride.
Presque à domicile pour Roman Reigns.
C'est ça. Donc, c'est loin d'être gagné. Mais bon, toujours est-il que, voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal foutu cette semaine. Écoute, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, toute cette rupture, quand même, en tout cas, ce début de rupture qui tease avec Paul Heyman, entre Brock Lesnar et Paul Heyman, Moi, je le vois comme ça, mais ça sent un peu, on prépare l'après Brock Lesnar et c'est terminé, quoi. Enfin, s'il se sépare de Heyman avant SummerSlam, c'est que c'est fini et qu'on devrait passer à autre chose. C'est un peu comme ça que je le vois parce que Heyman, derrière, pourra se servir de ça pour prendre un autre client, pour rentrer peut-être en rivalité. Son client avec Kurt Angle, des choses, parce qu'il y a eu des petites histoires qui se sont passées, tout ça. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il tisse cette rupture, c'est un peu la fin. On prépare l'après, quoi. Et donc, bon, moi, ça me plaît, parce que c'est ce que j'aimerais qu'il se passe.
Bah ouais, disons que le but, il ne faut pas que Brock Lesnar soit popé, c'est-à-dire encouragé à SummerSlam. Si Paul Heyman se retourne contre Lesnar à SummerSlam, il y a de fortes chances que le public de Brooklyn prenne parti pour Paul Heyman.
Oui, c'est un peu le Joker. La dernière carte qu'il leur reste.
C'est ça. Ça peut permettre de faciliter un petit peu la pop de Roman Reigns. En tout cas, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on dit que Brock Lesnar s'en va vers l'UFC. Plusieurs fois qu'on dit qu'il va perdre le titre. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne vraiment, parce que ce serait vraiment une erreur de continuer avec ce mec champion. Ils en sont quand même arrivés à demi-mot à dire de n'acheter pas ces t-shirts, quoi. C'est quand même bizarre, hein, parce qu'il fait un t-shirt pour chaque ville.
Non, c'est assez surprenant. Enfin voilà, moi je l'ai vraiment, ou alors c'est encore une fois, ça va être le plus grand swerve de l'année, après celui de WrestleMania on marchait sur la tête, c'était incompréhensible comme résultat. Puis après celui du Great Royal Rumble, là je perdrais totalement espoir si jamais ils font gagner Brock Lesnar. Mais vraiment voilà, tout était écrit et présenté, j'ai trouvé en tout cas, comme étant on prépare l'après, on prépare cette rupture, ce grand clash, ça y est, cette fois c'est fini. Et Brock Lesnar pète un câble, il n'en a plus rien à foutre. Et au final, son comportement tel qu'il est dépeint aujourd'hui justifiera assez facilement que derrière SummerSlam, il n'y ait même pas de rematch, en fait. Parce qu'en fait, il se barre, il s'en fout. D'ailleurs, ça peut-être être une stipulation qui est ajoutée d'ici SummerSlam. Il nous reste 2 semaines. Mais un truc un peu dans ce sens-là, où il nous explique très fortement que... de toute façon, si je perds... Mais ce qu'ils ont déjà fait, d'ailleurs, avant le Great... Là, je réfléchis haute voix, mais j'étais en train de me dire, je pense qu'avant le Great Royal Rumble, là, à Jeddah, ils nous avaient un peu fait la même que si Paul Heyman avait dit que si Brock Lesnar perdait, de toute façon, il s'en allait.
Ouais, c'est vrai. C'était pas WrestleMania, je crois.
C'était avant WrestleMania ? Ah, peut-être que c'était avant WrestleMania, je me souviens plus. Bon, ils l'ont peut-être déjà fait, en fait, ça. Ouais, mais bon, écoute, toujours est-il que, là, il faut que ça se termine.
Mais c'est-à-dire qu'il le disait en sachant que Brock Lesnar allait gagner, quoi.
Oui, donc ça, c'est un peu différent.
Alors, Richard se demande quel est le pire règne entre celui de Goldberg et celui de Lesnar. Moi, j'ai plutôt bien aimé le règne de Goldberg. Hein.
Alors, on parle du retour de Goldberg.
Oui, puisqu'on est sur le titre universel, hein, qu'il n'y a pas
tant que ça. Oui, moi aussi, j'avais plutôt bien aimé le titre de Goldberg. C'était assez inattendu.
Ça avait pris tout le monde par surprise. Et
Ça avait pris tout le monde par surprise et puis ça avait accouché de d'un truc à WrestleMania qui était assez dingue. Moi personnellement, j'avais bien aimé, donc
ouais, c'était voilà. Donc on dit,
j'ai rien à redire.
on sera
Ouais.
plutôt plus critique sur le règne de Lesnar, mais c'est surtout le push de Roman Reigns qui pose problème, pas tant le statut de Lesnar de champion
Oui,
qui vient
finalement,
pas
parce que
dans les bookings.
le nœud du problème là-dedans, c'est que ça tue complètement en fait le push de Roman Reigns, quoi, cette histoire de Lesnar, et c'est vraiment enfin, d'une certaine manière, d'un point de vue kayfabe, c'est la kryptonite
Superman.
de super Roman qui peut pas prendre son envol tant que Lesnar est là. Alors après, ça posera le débat de savoir est-ce qu'on veut que Roman Reigns prenne son envol. Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, ça n'empêche que il est dans cette situation que tout le monde déplore. Moi, j'ai un peu toujours l'impression quand je débat de la question du push de Roman Reigns où tout le monde déplore un peu le push de Roman Reigns sans jamais vraiment trouver la bonne explication de pourquoi est-ce que ça énerve tout le monde. Et moi, l'argument principal que j'ai pourquoi est-ce que ça énerve tout le monde, c'est qu'en fait, ils ne l'ont jamais vraiment poussé à 100% en fait, Roman Reigns. C'est un peu ça le truc, c'est que alors là, j'imagine qu'on en a déjà perdu plusieurs, qu'on fait des syncopes, qui ont
Voilà.
dit quoi, ils ont jamais poussé Roman Reigns, mais c'est n'importe quoi. Mais non, en fait, si on regarde l'histoire depuis 4 ans, Roman Reigns n'a jamais vraiment, sur une période plus que de 2 mois, n'a jamais vraiment été poussé comme un top face d'une compagnie, telle qu'on imaginerait pousser un top face, comme ça a été le cas par le passé. Et c'est tout ça, c'est à cause de parce qu'ils ne veulent pas faire perdre Lesnar contre Roman Reigns. Incompréhensible, puisque l'histoire est faite depuis 3 ans pour que Roman Reigns aille battre Lesnar, et il refuse de donner ce moment. Pourquoi ça, je ne sais pas.
Et c'est mathématiquement prouvé, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui nous expliquent
Ah
que Roman Reigns ne gagne pas tant que ça.
Et oui, et donc c'est là où je vais pouvoir sortir mon calepin, puisque voilà, pour
Parce
ceux
qu'il faut
qui.
que les gens, il faut que la vérité soit dite.
Il faut que la vérité
Ce
soit
Roman
dite
Reigns,
sur.
ce Roman Reigns LOL là qu'on voit partout, eh ben
Oui,
non, ça fonctionne
il faut
pas comme
savoir que c'est
ça.
faux. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, souvent, quand on parle du cas Roman Reigns, du push Roman Reigns, ce qui m'agace, moi, j'aurais aucun mal à reconnaître, et même bien au contraire, que le personnage, enfin, en tout cas de Roman Reigns, est probablement le plus mal géré, enfin, la gimmick ou le personnage, le catcheur le moins bien géré à la WWE depuis. Depuis que je regarde du catch, c'est, je pense, le catcheur le moins bien géré d'un point de vue kayfabe depuis 20 ans. Je sais pas, alors je vais sortir une tranche d'année au pif, parce qu'en fait, on se rend compte que ce que j'expliquais là, ce push qui n'a jamais vraiment commencé, on s'en rend compte quand on regarde les chiffres. Alors moi, je suis un grand amateur de statistiques, donc je me suis plongé pour les clients du forum des cahiers du catch. Peut-être que vous avez pu suivre un peu ce débat chiffré, mais Roman Reigns wins LOL, c'est faux, puisqu'en fait, on se rend compte que Roman Reigns sur donc si on prend son push solo, puisque c'est la période qui agace tout le monde sur les 4 dernières années, quand il s'est séparé du Shield, eh ben, vous seriez peut-être surpris de savoir qu'il perd plus qu'il ne gagne en pay-per-view. Ce qui est quand même assez hallucinant pour quelqu'un qui est top, giga, méga face, push. Alors, c'est toujours une traduction un peu douteuse, mais genre qui est enfoncé dans nos gorges, comme disent les Anglais, là, voilà, on nous rabâche Roman Reigns constamment. Non, en 4 ans, alors, il est à 20 victoires et 22 défaites en pay-per-view. Ça fait 48% de victoires quand il est seul. Donc, on s'était
À moins de
amusé à faire un
50%.
comparatif de l'époque, puisque Roman Reigns, c'est soi-disant le second coming of John Cena, Cena 2.0. Mais donc, en fait, je pense que les gens qui avancent ça n'ont jamais connu en fait le vrai Super Cena, le Cena du début des années 2000, parce que je pense que vous vous rendriez compte que Roman Reigns est quasiment d'un niveau de jobber à côté de John Cena, parce que John Cena, quand il a débuté vraiment son méga push et il a plus jamais quitté le main event pour les ceintures mondiales, c'était vers 2004. Sur les 4 premières années de John Cena, Il était à 78% de victoires en pay-per-view, c'est presque 8 matchs sur 10, donc c'était 32 victoires, 9 défaites. Et en weekly, il était quasiment intouchable, il était à plus de 75%, par contre, Roman Reigns, c'est lui plutôt autour de 60%. Donc, ne serait-ce que déjà, et alors on va me dire les statistiques. Pour le coup, c'est méga important puisque on n'a pas poussé l'analyse et on pourrait pousser l'analyse à je sais pas, Batista était face, quand Edge était face, quand Jericho était face, tous ces mecs-là, quand Austin était face. Enfin, à mon avis, on pourrait sortir les chiffres, ce serait très intéressant, mais personne n'a jamais eu le traitement de ratio victoire-défaite qu'a Roman Reigns. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça tue son personnage puisque un babyface doit gagner. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est une règle de base. Le heel doit tricher et le gentil doit gagner.
Doit gagner à la fin.
C'est frustrant. Enfin, c'est plus que frustrant. C'est que la règle n'est pas respectée, donc ça peut pas fonctionner. On peut pas être derrière un loser. Par exemple, quand Roman Reigns perd contre Bobby Lashley. En pay-per-view, comment voulez-vous après être derrière lui pour ces matchs suivants? Là, on voit bien qu'ils sont obligés de rattraper le coup en faisant une défaite contre Lashley, mais du coup, on est à un truc 50-50 qui est tiédasse, et c'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir des mecs, du moins le grand public, veut voir des mecs qui arrivent et qui défoncent leurs adversaires, pas des mecs qui perdent quand ça devient important.
Ah, exactement.
Ça,
et au final,
c'est les Français à Roland Garros, quoi, si vous voulez.
Ça marche. Alors, le coup de, parce qu'on veut voir des babyface gagner, on veut voir le héros gagner. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, c'est la base du catch. Le héros doit battre à la fin le heel. C'est des cas de mecs qui ont fait carrière en tant que underdog, qui perdaient plus souvent qu'ils gagnaient. C'est ultra rare et surtout c'est pas du tout adapté au personnage et à la carrure de Roman Reigns. Il a pas du tout le profil.
C'est pas l'underdog, hein.
Il a pas du tout le profil.
C'est
mais le truc
dog.
C'est que oui, c'est déjà en plus c'est le big dog. Il s'appelle lui-même le big dog. Mais c'est pour ça qu'on marche sur la tête avec son booking, c'est que la WWE à plusieurs reprises sur ces 4 dernières années a essayé de nous vendre un peu Roman Reigns comme étant l'underdog qu'allait triompher, et en essayant de le booker comme ça, ça ne prend pas parce que les gens n'y croient pas, mais ça fonctionne avec très très peu de catcheurs. C'est vrai que les gens vont souvent dans ces cas-là ressortir l'exemple de Daniel Bryan qui a eu il a le profil pour être un peu celui qui part de tout en bas et qui va gratter, se faire battre jusqu'à avoir ce grand payoff, un petit peu ce grand truc. Mais au final, l'idée est la même à la fin, c'est que quand tu construis un mec comme ça, c'est que tu veux le faire gagner à la fin, tu veux le voir gagner, tu veux le voir triompher, et c'est comme ça, et c'est en emmagasinant des victoires que tu crées un peu une sorte de héros. C'est le principe du catch, hein. Un mec bigger than life qui gagne, qui te fait rêver, et autour duquel tu as envie de construire ta fédé, acheter du merchandising, remplir des stats, parce que c'est le top face, c'est le top mec, c'est le gars qui gagne, évidemment qui doit pas gagner tout parce que sinon les rivalités perdent tout leur intérêt, mais avoir un ratio de victoire comme un Roman Reigns quand on est soi-disant le top face, en tout cas le mec qui est pushé comme un top face à la Fédé, c'est impossible, on marche sur la tête. Et donc ça pose la question de cette histoire avec Lesnar qui est invraisemblable, puisque tu racontes pendant 3 ans que Roman Reigns veut battre, tu le racontes même pas, mais tu comprends que Roman Reigns, Brock Lesnar a été quasiment construit pour que Roman Reigns lui prenne le titre et soit la top star. Et ils ont tellement... Ouais, vas-y.
Et c'est construit. C'est-à-dire que tu as, d'un côté, Roman Reigns, ce qui est vrai, c'est que c'est un cheval de course, marathon, hein. C'est-à-dire qu'il enchaîne les matchs. C'est incroyable le nombre de matchs qu'il a fait en une année, quoi, Roman Reigns. Et depuis le début de sa carrière, il a un rendement assez exceptionnel.
C'est impressionnant.
C'est vraiment, pour le coup, quand il dit qu'il est là day in, day out, toutes les semaines, etc., ça, c'est vrai. Et d'un autre côté, ils ont construit, parce que c'est construit, hein, Brock Lesnar, comme un mec qui en avait rien à foutre du catch, qui veut pas venir bosser, etc. Ça, c'est une construction qui est faible.
Il y a une vraie opposition de style qui est faible, qui existe, elle est là.
c'est pas Brock Lesnar, on lui dit de venir au weekly, il vient au weekly, hein. C'est pas un mec qui veut pas bosser, hein. Mais ils ont monté leur champion comme ça. Et le danger, c'est qu'effectivement à SummerSlam, on se retrouve encore avec deux mecs qui soient détestés, quoi, pendant le match. Mais voilà, c'est le problème de ce Roman Reigns qui ne gagne pas quand c'est important.
C'est le problème de... En fait, on a passé le stade où c'est presque trop tard, malheureusement. Il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils gagnent parce qu'il faut qu'ils aillent au bout de cette histoire et qu'ils arrêtent sans cesse, chaque année, de faire du start and stop avec le push de Roman Reigns, à savoir toujours, finalement, avoir cette obsession de le présenter comme étant... le seul qui peut battre Brock Lesnar et ne jamais le faire battre Brock Lesnar. Et donc, parce que ce qui fait qu'il va être... Sinon, on va toujours avoir... moi, je pense que c'est plus ça qui agace les gens inconsciemment derrière le fait que oui, Roman Reigns, c'est une merde, machin et tout. C'est le fait que finalement, il est tout le temps surexposé par rapport finalement à ce que son booking vraiment raconte, puisque son booking, c'est que malheureusement... dans les faits, il n'a pas l'air d'être si fort que ça. Il perd énormément, il perd clean énormément, parce que ça, c'est aussi un truc qu'on entend souvent, mais Roman Reigns, je vous le jure, il a perdu contre Samoa Joe, contre Finn Balor, il a perdu, oui aussi, oui, contre Braun Strowman, il a perdu contre...
Il n'a jamais eu le titre universel, en vérité,
non,
Roman Reigns.
Contre Bobby Lashley.
Jamais John Cena l'aurait perdu contre Bobby Lashley, hein. Même contre Finn Balor, en vérité.
Jamais. Et donc, mais Roman Reigns perd très souvent clean, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est impensable. Ce qui fait que, évidemment, quand ça se passe en weekly de temps en temps, ou même en pay-per-view, on se dit, ils essayent de nous vendre le truc, c'est un upset. Mais pas tant que ça. En fait, Roman Reigns est tout à fait capable de perdre en pay-per-view. Et c'est ça qui est un peu catastrophique. En fait, c'est qu'il y a une dissonance en fait, entre la volonté manifeste de la WWE, qui après, ça s'appelait ou ça plaît pas, c'est toujours après les goûts et les couleurs. Je voudrais pas qu'on mélange ça, parce que vous avez le droit de pas aimer Roman Reigns et de pas vouloir le voir truster le main event, ok. Mais il y a une dissonance entre ce que la WWE en tout cas veut faire de Roman Reigns, qui est manifestement, ils veulent en faire quelque chose de gros, parce que sinon il serait pas tout le temps comme ça, et la façon dont ils le bookent, il est pas booké comme un top babyface, alors qu'ils veulent en faire un top babyface. Donc c'est en fait, c'est un peu ça, moi, qui m'agace, c'est qu'ils vont pas au bout de leurs idées. Ou alors ils vont au bout de leurs mauvaises idées, puisque ça fait maintenant 4 ans que de toute façon, à chaque fois que Roman Reigns arrive à un stade où il pourrait peut-être avoir un tout petit peu de momentum, il le casse direct et il le refoute en upper mid-card où ils lui remettent la tête sous l'eau et ils le font perdre. C'est systématique. On peut regarder son push depuis le début, depuis qu'il a quitté le Shield. Et ça a commencé dès le début, hein, dès WrestleMania 31, quand il est allé contre Lesnar, où il était, c'était censé être son moment. Lesnar était arrivé, Lesnar était arrivé à la WWE depuis 2 ans, et il était écrit pour Roman Reigns. C'était la fusion entre Superman et Batman. Le mec était beaucoup trop fort, il a cassé la gueule de tout le monde. Il a détruit John Cena, il l'a fait passer pour un enfant de 2 ans. Dans sa rivalité, John Cena, il a quasiment jamais perdu une feud de manière aussi définitive que celle contre Lesnar. Il a battu l'Undertaker, c'était le top, c'était le monstre, c'était le truc absolu. Brock Lesnar était intouchable et donc il était booké contre Roman Reigns. Il fallait que Roman Reigns gagne à WrestleMania 31. Moi, c'était mon postulat et j'en démordrai jamais. Mais et si Roman Reigns avait gagné à WrestleMania 31, je pense qu'on n'en serait pas là au niveau de son personnage aujourd'hui. Ils ont décidé de faire cacher Seth Rollins pendant ce match-là. Écoute, ok. Sauf que finalement, au lieu de peut-être de jouer là-dessus pour faire une rivalité entre Seth Rollins et Roman Reigns, finalement, ils n'ont pas fait ce choix-là. Bon, Seth Rollins, après, pas de bol, il s'est blessé. Ça c'était pas de chance, mais après on se souvient qu'il y avait eu ce fameux tournoi du coup que Roman Reigns avait gagné, c'était au Survivor Series je crois, juste après WrestleMania 31, Survivor Series, Roman Reigns qui gagne, qui touche son premier titre, son tout premier titre mondial, oui il me semble que c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Vous m'arrêtez, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, il me semble que c'était ça. Il touche son tout premier titre mondial, donc là il est censé être au sommet du monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le font, c'est Sheamus, je crois, qui
C'est
cache
Sheamus qui cache la mallette. Après,
cache la mallette.
quand il l'a regagné, ils l'ont fait perdre au Rumble.
Et ouais, et
Enfin,
puis après,
par Triple H, quoi.
il
N'importe
la
quoi.
regagne, il le font perdre contre Triple H. C'est sans cesse, en fait. On avait vu, d'ailleurs, c'est un autre chiffre qui est assez intéressant. Après, peut-être qu'on arrêtera quand même de parler trop de
Oui, on
Nights.
va avancer sur SmackDown.
Mais c'est qu'en cumulé, il est à. J'ai plus. Alors, du coup, voilà, j'ai fermé ma page de chiffres, bravo moi. Mais je crois qu'en cumulé, sur ces trois
Ça doit être
règnes, il l'a eu
ça,
trois
ouais.
fois. Il est à 160 jours, un truc comme ça, ou 140 jours de règne, un truc comme ça. Sachez, par exemple, à titre de comparaison, que sur un seul règne, Jinder Mahal a été champion plus longtemps que Roman Reigns en trois règnes, quand même, c'est
Par
toujours
exemple.
intéressant.
Alors, Austin et The Rock n'ont pas eu des règnes très longs non plus, eux.
Non.
Mais eux, ils bottaient des culs, quoi. C'était.
Ils bottaient des culs, c'est-à-dire que quand ils allaient sur un ring, a priori, t'allais, enfin, ils étaient favoris, quoi. Ils gagnaient quand même assez régulièrement. Mais bon, écoute, c'est ce paradoxe, Roman Reigns, qu'il est grand temps de. Moi, je milite, même si c'est pas agréable, il faut que ça arrive pour qu'il lâche l'affaire, pour enfin, pas forcément qu'il lâche l'affaire, peut-être que d'ailleurs les gens changeront d'avis, parce que je pense aussi que c'est ça, que si les gens voient un Roman Reigns différent qui gagne, qui est dominateur, mais qui est champion, qui met en avant du coup des challengers heel, qui fait monter des gars, parce que affronter Roman Reigns, s'il est dominant et qu'il est champion, mais régulièrement, parce que du coup ce sera plus régulier que Brock Lesnar, ça change complètement la perception, je pense aussi, quand vous allez voir tous vos heels préférés affronter Roman Reigns, ça va changer peut-être aussi la perception du catcheur que vous avez, mais il faut qu'il gagne à SummerSlam et qu'il ait un long. Enfin, qu'il ait un vrai push, un vrai run, et pas que, j'espère, pas qu'il y ait un cash-in dans le même soir de Braun Strowman ou inversement, ou alors
Ouais.
cash-in, mais qu'il soit contré par Kevin Owens. Mais faites que Roman Reigns, voilà, il faut qu'ils aient cet exutoire, il faut qu'ils le fassent gagner une bonne fois pour toutes.
C'est ça. Et puis l'avoir au
Et tout le monde.
sommet, ça permettra de pusher des autres pour essayer de l'atteindre, plutôt que d'avoir lui qui soit toujours dans une
Évidemment.
phase
Puisque
de où il doit faire toutes les
si c'est
épreuves.
lui qui est devant, du coup, cette position systématique du chasseur qui fait que qui empêche en fait tous les autres d'être pushés, puisqu'il est tout le temps dans cette posture du chasseur, bah, du coup, ça va donner des opportunités à énormément de gens que vous voudriez voir, peut-être des Finn Balor qui pourraient turn, des Kevin Owens, tous ces catcheurs qui finalement on aimerait voir, bah, qui auraient justement l'occasion d'avoir des rivalités avec Roman Reigns. Et de tourner autour de cette ceinture qui est volée, prise en otage par Brock Lesnar. Donc,
C'est ça.
il faut Roman
Il est
Reigns.
temps. Il est temps. Et que la vérité soit dite. Salut à Game Jeu qui est arrivé à nouveau. Bah écoute, abonne-toi, hein. C'est gratos.
Écoute,
Et
hein,
bienvenue. Si tu as
tu
des
tombes bien.
questions, n'hésite pas. Allez, on va attaquer SmackDown. T'arrives bien. Il s'est aussi passé plein de trucs à SmackDown. Notamment le fil rouge de l'émission, c'est le retour de Charlotte. On vous en dira un peu plus. Un peu plus tard. On a pris beaucoup de temps là pour parler de Roman Reigns, donc du coup on va pas avoir le temps de parler du match entre Lana et Zelina Vega, qui était dégueulasse. Faut plus jamais faire
C'est
ça,
trop
les enfants.
extraordinaire.
Voilà, victoire de Zelina Vega, qui n'est pas une bonne catcheuse, hein, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Lana non plus, donc voilà, laissons-les à leur job de. Comment on appelle ça? Manager.
Manageuse.
Voilà, manageuse, c'est très bien, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Je vous ai quand même mis quelques photos hein, de Lana et Zelina Vega. Ça vaut
Oui.
quand même le coup d'œil.
C'était mieux quand même que ce que je craignais. Moi, je n'ai pas trouvé ça. C'était pas du grand catch, hein. C'est évidemment pas les filles que tu veux mettre en avant dans ta division féminine, mais c'était pas horrible.
C'était horrible. voilà. Que les choses soient claires. Ensuite, allez, on va revenir un peu à quelque chose qui s'était déjà passé la semaine dernière, mais dont on nous a fait un petit remake avec quelques subtilités. C'est Jeff Hardy qui arrive au ring pour expliquer que la semaine dernière, il s'est fait casser la gueule. Et bien, cette semaine, il va se faire casser la gueule aussi, pas par Randy Orton, mais par Nakamura qui débarque par surprise. Hein, c'est Randy Orton qui débarque sous le Titantron, mais c'est Nakamura qui vient attaquer Jeff Hardy. Ça se toise un peu entre Nakamura et Randy Orton, mais le champion US laisse sa place. Il a fait ce qu'il avait à faire, un petit Kinshasa sur Jeff Hardy. Et Randy Orton, ben, va en profiter pour torturer Jeff Hardy. Il leur passe à tabac, bien méchamment. Alors il nous tease un RKO.
Oui.
La foule est en feu, puis finalement rien du tout.
Et non.
Il fait tomber à terre Jeff Hardy. Il commence à méthodiquement lui frapper un peu toutes les articulations. Et après, il le démaquille. Hein, il envoie, on va aussi lui faire des DDT à l'extérieur du ring, on va l'envoyer sur les tables des commentateurs, etc. Il va démaquiller le second Jeff Hardy, hein, qui met toujours son maquillage maintenant, hein, pour avoir un peu cette connexion avec le public. Et il va lui piquer ses affaires, puisqu'il lui chippe son collier. Collier
Oui.
dont on nous explique que c'est un peu son lien avec le WWE Universe.
Eh oui, tout comme les peintures. Oui.
Donc. Un peu un remake de la semaine dernière, mais un Randy Orton toujours aussi vicieux. Et Nakamura qui reste là dans l'équation. Je suppose que ça te plaît ce retour de Randy Orton en méchant,
Ouais,
plus que vicieux, The
et ça me plaît
Viper.
beaucoup. Ça me plaît beaucoup. De toute façon, Randy Orton, voilà, il a jamais été aussi intéressant que quand il était heel, ça c'est sûr. Mais on va dire cette itération du Randy Orton heel me plaît énormément. Ce heel un peu mi-blasé, qui s'est trouvé un peu comme une sorte de seconde vie. Il a décidé, voilà, j'ai trouvé que sa promo la semaine dernière était vraiment très originale. Il a décidé de détruire, enfin voilà, de détruire méthodiquement tout ce que le WWE Universe aimait. Enfin, c'est une autre facette de son personnage de connard vicieux torturé. Se dire que voilà, on a l'impression qu'il a eu une sorte d'illumination un peu de psychopathe, de se dire mais attends, en fait, qu'est-ce que je, enfin ouais, qu'est-ce que je me fais chier avec tout ça. Et puis vous êtes tous des cons. Je vais tout casser, je vais tout brûler. Et je vais commencer par du coup je vais commencer par Jeff Hardy et du coup c'est vrai que ces 2 semaines ont bien planté le décor pour te dire bah oui là Jeff Hardy il a l'air mal barré parce que Randy Orton a décidé vraiment de le démanteler bout par bout les semaines dernières là c'était ses étendeurs ses écarteurs d'oreilles là avec cette image horrible alors paraît-il que ça fait pas très très mal en fait en vrai mais bon moi comme je connais pas j'ai frissonné quand j'avais vu ça et puis bah là cette semaine voilà c'est ce côté très métaphorique hein, en effet d'enlever d'ôter tout ce qui fait que le WWE Universe aime Jeff Hardy donc c'est les peintures sur le visage le collier avec le logo et puis bah de lui ôter cette capacité à voler, à virevolter partout, là. Donc c'est pas mal foutu. Ce petit mix avec Nakamura avec cette attaque complètement gratuite là, de Nakamura qui aurait pu complètement s'en dispenser, mais je trouve que ça colle pas mal à son personnage, à lui aussi, qui est vraiment devenu une vraie petite fouine. Parce que Nakamura, en soi, il pourrait laisser les autres se dépecer entre eux. Il a aucun intérêt vraiment à venir mettre son petit Kinshasa tranquillou. Et en même temps, donc il vient et en même temps il se rend compte qu'il a peut-être fait une petite erreur parce que c'est vrai que il se dit qu'il est confronté à Randy Orton qui a l'air un peu incontrôlable. Ce petit jeu-là, ce mind games où au début il l'empêche puis il le laisse faire. Enfin, c'est vraiment Randy Orton, c'est le patron. Voilà, tout ce rapport de force, cette dynamique me plaît beaucoup et on se dirige peut-être vers un petit triple threat. À SummerSlam, qui serait, écoute, pas pour me déplaire, parce que c'est vrai qu'il paraît que Jeff Hardy est toujours un peu diminué physiquement, donc ça pourrait permettre aussi de diminuer la charge un peu de.
Il peut que prendre des gros bumps ou rien, Jeff Hardy.
Ouais.
Il est
Et puis, soit dit en passant, ni Randy Orton, même si j'aime beaucoup son nouveau personnage, ni Shinsuke Nakamura ne m'ont pour l'instant, enfin, lui, c'est récemment, mais c'est pas des catcheurs qui m'emballent énormément. En un contre un, encore plus quand ils sont heel. Donc le fait que tout ce beau monde soit dans un triple threat, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un truc sympa d'ailleurs.
Ouais, moi
C'est
je suis plutôt optimiste parce qu'on a trois vieux routiers
Ouais.
du circuit qui sortiront sûrement quelque chose de vraiment dynamique, plutôt sympa, plutôt bien booké. J'ai pas trop de doutes là. C'est ce qu'il faut pour une affiche de SummerSlam, trois grosses stars comme ça qui s'affrontent, même si on est vraiment sur des vieux de la vieille, mais Randy Orton, il
Ouais.
est pas si vieux que ça en vérité, parce qu'il a commencé très
Non.
jeune.
C'est ça qui est fou, n'empêche.
Ouais, Nakamura, il a encore des choses à prouver à la WWE et je pense qu'une stipule en triple threat, ça peut être plutôt pas mal pour lui dans un affrontement, surtout avec des mecs comme Jeff Hardy ou Randy Orton ensemble. Donc c'est plutôt, je pense, quelque chose qui est plutôt judicieux au final. Plutôt que d'avoir un simple Jeff Hardy Nakamura.
Oui, qui aurait été beaucoup moins emballant,
Puis au
clairement.
niveau des storylines, voilà, ça fait du contenu, ça fait des choses un peu nouvelles, c'est mieux que d'avoir
Ça
un
crée des
truc
transitions
où,
pour
voilà,
après.
tout le monde se respecte et on se met des coups de poing dans les couilles, quoi. Avançons. On est dans le tournoi tag team.
Et
Souvenez-vous,
oui.
c'est les frères Marteau qui sont champions, les Blue John Brothers. Et donc il y a un tournoi pour déterminer des nouveaux challengers numéro 1. Sont qualifiés déjà le New Day, qui vont venir en commentateur de côté là. Surtout manger des pancakes hein, et puis gueuler dans
Oui.
tous les.
Attends, ils ont leur propre table d'annonceurs quand même.
C'est ça. Alors je sais pas s'ils étaient en direct, j'ai pas bien compris, ou s'ils étaient sur Facebook en
Non,
parallèle.
je pense qu'ils étaient sur un autre média en effet, parce qu'on ne les entendait pas dans le match. Et de temps
Ouais.
en temps, ils faisaient un petit retour. Tu avais les commentateurs qui disaient, ah, tiens, on va aller écouter ce que racontent nos collègues du New Day là.
Les trois
Et
connards là-bas.
ouais, ils étaient dans leur monde, ils discutaient entre eux à chaque fois qu'il y avait des retours. Donc ça devait être, je ne sais pas sur quel média ça a été diffusé, mais ça devait être très divertissant, très marrant.
Ouais. Bah, ça devait être, à mon avis, un Facebook Live ou un truc comme ça.
Ouais, sûrement.
Et donc, face à. Donc, ce soir, qui s'affronte hein, pour gagner une place en finale de ce tournoi? The Bar, Sheamus et Cesaro, qui sont de retour à SmackDown hein, après un bon moment d'absence. Et les Usos, qui avaient perdu leur ceinture face aux Blue John Brothers. Deux grosses équipes, hein, deux des meilleures équipes de la WWE qui s'affrontent dans un match
Clairement,
qui
ouais.
était un très bon match de weekly, très très bon match. Tag team toujours hein, du haut niveau hein, quand c'est The Bar et
Ouais.
The Usos qui sont dans le ring. Mais c'est bien The Bar qui gagne le match. Bah, clean, il me semble. Oui, il y a peut-être une
Ah
petite
oui,
distraction à
non,
un moment
clean, clean.
donné, mais voilà, victoire de Cesaro et Sheamus qui ont l'air en bonne forme. Et c'est donc eux qui affronteront le New Day. Il y aura un petit face-à-face un peu après le match, quoi. Donc déjà, bah, on va avoir la semaine prochaine, hein, je crois, The Bar contre The New
Oui, la
Day.
semaine
C'est
prochaine.
pas, c'est voilà, c'est pas une affiche sur laquelle on va cracher, je pense.
Pas du tout. Non, non, on va pas cracher. En plus, The Bar, avant de disparaître de manière incompréhensible ou pas d'ailleurs, parce que je sais plus, Sheamus, c'était. Non, il était pas blessé. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont disparu aussi longtemps.
Ils ont été regarder le foot. Hein. Il y
Ils ont été
avait
regarder le
ces deux
foot.
fans de foot, donc ils ont
Mais
pris leurs
The Bar
bagages, je pense.
et le New Day avaient toute une petite histoire entre eux avant, quand The Bar avait été drafté à SmackDown, il y avait tout un tas de petits segments très fun. Donc c'est quoi qu'il arrive. Et puis en plus, ils ont toujours fait des très bons matchs. Ce sera quoi qu'il arrive très très bien. Très content du résultat, déjà parce que ça permet à The Bar de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Et puis bah, parce que. Ça aurait été encore un Uso New Day, qui aurait été sûrement très bien, mais ça aurait été presque incompréhensible que ce soit encore Uso New Day, parce que c'est vrai que déjà avant les Blood John Brothers, ils nous avaient rempilé alors qu'on pensait qu'à WrestleMania, la prise de titre des Blood John Brothers avait un peu clôturé le chapitre. Uso New Day qui se tournait autour depuis des mois et des mois avant ça. Il nous avait remis pour un match de Challenger, pareil, Uso New Day. Et donc on tournait un petit peu en rond sur cette affiche qui, voilà, qui vaut évidemment son pesant, hein, mais bon. Donc là, je suis content de voir The Bar gagner, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je serais pas surpris de les voir peut-être se diriger même vers le title shot la semaine prochaine, mais bon, ça, on reverra. Moi, je les sens bien. The Bar, ils sont revenus en forme. D'ailleurs, le match, donc, bah, tu l'as dit, le match était top. Surtout pour moi, j'ai adoré la prestation de Sheamus et Cesaro. Je trouvais que The Bar, ça me fait vraiment plaisir de les revoir à la télé parce que c'est vraiment une super équipe. Il y a toujours cette. On en avait parlé, je crois, une fois quand on avait débriefé un pay-per-view ensemble avec un match de The Bar. Mais moi, ce qui me fascine à chaque fois dans leur match, c'est que ils ont un moveset d'une profondeur en tant qu'équipe qui est hallucinante et qui fait que leur match, tu as l'impression qu'ils les gagnent jamais de la même façon. Et la fin d'un match peut arriver à tout moment. Ils ont toujours des combinaisons, des interventions super originales qui font que voilà, leurs matchs sont vraiment très prenants à regarder parce que tu te dis que voilà, ça peut s'arrêter à tout moment. Ils cassent un peu les codes des finishes ultra classiques. J'aime beaucoup ça dans cette équipe-là. Donc voilà, bah, écoute, c'était top et j'ai hâte de voir la semaine prochaine The Bar contre New Day.
Ouais, Cesaro, hein. Faut pas oublier à quel point Cesaro est
Ah bah
talentueux
Cesaro
et
est très
c'est
très fort,
le putain de point central de cette équipe. Un Sheamus derrière, c'est un sacré professionnel aussi. Et donc du coup, effectivement, on avait oublié à quel point ces mecs-là sont talentueux. On est bien content de les voir de retour et on espère voir encore des matchs et des matchs de The Bar.
Yes.
Samoa Joe débarque au ring.
Magnifique.
Il vient nous expliquer qu'il a du respect pour AJ Styles, hein, puisque c'est le nouveau challenger pour le titre de la WWE. Mais il nous rappelle qu'AJ Styles a parlé de sa petite fille la semaine dernière, hein, puisqu'il avait fait un petit peu la pub pour Evolution, le pay-per-view spécial féminin. Il disait que maintenant
Eh
sa
oui.
fille pourrait achever tous ses rêves, hein, il n'y aurait plus de soucis. Mais Samoa Joe, il accuse AJ Styles d'être un mauvais père. Puisqu'effectivement, AJ Styles est trop occupé avec sa carrière de champion de la WWE pour s'occuper de ses enfants. Il manque à la maison, ce bon vieux AJ Styles.
Eh oui.
Mais heureusement, à SummerSlam, il va arranger tout ça, Samoa Joe, puisqu'il va, il va détruire la maison d'AJ Styles. Hein, il va s'incruster, il va prendre la ceinture d'AJ Styles, il va lui prendre tout ce qu'il possède. Et comme ça, AJ pourra rentrer à la maison, s'occuper de ses gosses. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Samoa Joe dans une promo encore une fois incroyable, excellent, excellent Samoa Joe. Ça t'a plu? T'as envie de voir la
Ouais.
suite?
Ouais, on a envie de voir la suite. Magnifique promo. Clairement, ce mec sait tout faire. Il est excellent en promo, que ce soit dans l'invective très agressive parfois quand il limite, quand tu as l'impression qu'il hurle et qui va défoncer un adversaire, ou dans ses promos beaucoup plus vicieuse et malaisante. Vraiment, tu l'écoutes parler, tu te dis que ce mec est un malade. C'était très bien amené, j'ai bien aimé l'angle, voilà, de dire oui, AJ
Ah,
Styles, je te
s'attaquer à la
respecte.
famille, c'est bien, hein.
Ouais, tu vas me remercier de te battre et s'attaquer du coup indirectement à sa famille. C'est bien vu, j'espère. Par le passé, il nous a pas quand même prouvé qu'il était fantastique sur ce registre, mais j'espère que la réponse d'AJ Styles sera au même niveau et surtout qu'on lui aura écrit un texte qui sera au moins à la hauteur de celui qu'on avait donné à Samoa Joe, parce que j'espère que ce sera pas juste un truc genre ouais, tu parles pas de ma fille comme ça, je vais te buter machin, mais un truc un peu plus fin et qui collerait justement pas mal avec ce personnage d'AJ Styles, qui est un champion face, mais un champion voilà omnubilé par il est quand même assez égocentrique, enfin pas égocentrique mais un peu narcissique quand même, AJ Styles. Tu vois, tu sens que c'est il sait, tu vois, il dit que SmackDown c'est la maison qu'il a construit, qu'il est le meilleur performeur, qu'il est le meilleur champion, tout ça. J'espère qu'on va garder un petit peu cette facette de ce personnage-là dans sa réponse, qui va nous faire un truc genre bah voilà, écoute, oui, c'est vrai que je fais des sacrifices, mais c'est pour ça que j'en suis là, mais par contre ce dont je suis sûr, c'est que moi ma famille en tout cas justement bah elle me respecte pour ça. Enfin, un truc plutôt dans ce style-là et pas juste qu'il fasse genre une tirade un peu gnangnan, genre oui, t'as parlé de ma fille, je vais te tuer, t'es un connard. Voilà, j'espère qu'on gardera en tout cas ce niveau, on va dire, de finesse dans la réponse, parce que ça peut vraiment faire une belle petite promo, des beaux petits packages et surtout un très gros match à SummerSlam. Donc c'était top cette promo. Ouais.
Ouais, mais c'est bien d'avoir un méchant qui joue comme ça sur la corde sensible. Hein. Là, on n'est pas dans le shoot, on n'est pas dans le truc, c'est juste du gros
Non, c'est
discours de
juste
heel
une.
et c'est
Voilà.
bien efficace quand c'est bien exécuté, quoi.
Ouais.
Allez, on continue avec un grand méchant, The Miz.
Et.
Mais surtout Daniel Bryan, hein, qui vient au milieu du ring, qui nous fait un peu de retape pour Evolution. Hein, il explique qu'il est très fier de Brie Bella. On voit pas trop le rapport, mais c'est pas grave.
Il a dit ça?
Ouais, du sang, début de truc.
Bon, il y a contribué d'une certaine manière.
Voilà. Alors après, bah, c'est pas faux, mais on aime bien le
Elle a quand
taquiner un petit peu.
même. Oui.
Donc il traite le Miz de lâche, le Miz qui apparaît sur le Titan Tron, qui peut pas venir aujourd'hui au ring, hein, parce qu'il est en train de tourner la deuxième saison
Miss and
peut-être de
Mrs.
Miz and
Ouais.
Mrs. Donc là, il est sur le set. Hein, sur le set de tournage, le set de table, je sais pas. Alors, c'est toi le lâche, dit The Miz. Hein. Souviens-toi, la dernière fois que tu m'as traité de lâche à Talking Smack, bah, je t'ai renvoyé tout ça, tous tes mots à la tête, je t'ai dit tes quatre vérités, qu'est-ce que t'as fait? Bah, t'es parti, t'es pas venu me frapper, t'as pas répliqué, t'as quitté le studio, c'est plutôt un acte de lâche, ça. On sait que ton contrat arrive à expiration, donc ce serait bien que tu retournes chez les Indies, hein, parce que tout ça, c'est fini. C'est fini ton heure de gloire. Il dit voilà, je t'ai porté sur mon dos depuis
Puis NXT,
NXT,
hein.
etc. J'ai tout fait pour que tu sois une top star. Et voilà, c'est comme ça que tu me remercies en me traitant de lâche. Daniel Bryan, lui, hein, il explique aux Miz que malgré tous ses efforts hein, pour être un mec, une star du mainstream, bah, ce sera jamais The Rock, ce sera même jamais John Cena. Ça fait mal hein, parce qu'on sait que le Miz c'est un peu son objectif. Mais il se déboulonne pas, il se déballonne pas même, le Miz. Il explique encore une fois que le Yes Movement c'est fini, que la Team Hell No c'est fini, et que le public quand il regarde Daniel Bryan, il voit plus l'underdog, il voit simplement un bébé qui pleure. Et pour illustrer le propos, il met plein de petites images de bébés qui pleurent, de toutes les couleurs d'ailleurs, c'est très
Oui,
finement
beaucoup de
joué.
bébés. Je pensais qu'il allait finir sur une image de la fille de Daniel Bryan. Ça aurait peut-être été un peu
Ouais,
trop. Enfin,
c'était
peut-être
trop,
qu'il a
ouais.
refusé.
Ouais, on marche sur des œufs là, avec les gosses des catcheurs. On a bien vu qu'il
Ouais.
voulait pas même ramener son fils à l'antenne, ou sa fille à l'antenne plutôt, The Miz. Voilà, donc un petit peu humilié, Daniel Bryan, qui est un gros bébé pleurnichard. Qu'est-ce que t'as pensé encore de cette séquence là
J'ai
qui ne
pensé que c'était
fixe.
sublime. Moi, j'ai adoré, dans un style complètement différent. Justement, là, tu l'as dit, Samoa Joe, qui
Ouais.
c'était de la hilerie pure old school, on va dire vraiment. C'est du pur scénario. Là, par contre, mais dans quelque chose qui est aussi très appréciable quand c'est bien fait. Et puis, c'est surtout parce qu'il y a une telle histoire derrière tout ça. Mais voilà, on est dans un autre type de promo heel. D'ailleurs, dans un autre type d'échange tout court, hein, parce que c'était
Ouais.
pas juste une promo heel, hein, c'était carrément une altercation, où là c'est beaucoup plus shoot, hein, parce que là on mélange beaucoup de choses, enfin beaucoup plus shoot évidemment, c'est pas du shoot, hein, mais bon, puisque voilà, on joue un peu avec les fantasmes, avec les dirt sheets, des smarts, avec cette sempiternelle rumeur de contrat expirant de Daniel Bryan. Vous vous doutez bien que si c'est mentionné à l'écran, enfin, bon, bref.
Ouais. Non, mais est-ce
Bon,
que vous
bref.
croyez vraiment que Daniel Bryan il va aller
Oui.
faire le tour des
Non,
Indies alors qu'il a sa
non.
gosse et tout
Non,
qu'on lui
non, mais
offre un
bon.
contrat à WWE? Mais soyez réalistes, les enfants, bon sang de bois.
Continue. Enfin bref, je veux pas trop m'étendre, mais ouais. Donc là, on est sur un jeu complètement différent, mais un jeu qui est maîtrisé à la perfection par le Miz, qui est toujours aussi bon, pour. En fait, on se prend au jeu avec le Miz parce qu'on a toujours l'impression qu'il arrive à toucher la corde sensible, à trouver la phrase qui fait mal, la phrase qui pique, et où tu as envie d'arrêter l'argument et de l'attraper, de lui mettre une patate. Et c'est un petit peu comme ça que les promos justement entre les deux se terminent. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Daniel Bryan avait toujours, pendant des mois, dit, ouais, j'ai envie de te mettre mon poing dans la face, j'ai envie de te mettre mon poing dans la face. C'est un petit peu ce qui prédomine dans leurs échanges. Donc je trouve que c'est toujours très bien. Et par contre, écoute, je ne sais pas si toi pareil, mais en tout cas, moi j'ai été plus agréablement surpris, parce que bon, c'était du Miz pure souche, hein. Et j'étais très agréablement surpris de Daniel Bryan, pour le coup, sur cette promo, parce que moi je trouve qu'il avait un peu perdu le feu en promo. J'ai jamais trouvé que c'était forcément quelqu'un qui faisait des promos fantastiques, Daniel Bryan. Alors il a, on va dire, une émotion et une histoire qui parle pour lui. C'est vrai que le public lui mange un peu dans la main, donc on a toujours l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, et de toute façon les gens vont faire yes, yes, yes. Mais là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment été très très bon sur cette promo, et que on avait vraiment l'impression qu'il était de nouveau concerné par ce qui, bon, tu me diras. Feu de contre Big Cass pendant 3 mois, ça doit pas forcément être ultra stimulant, mais en tout cas voilà, on avait l'impression qu'il avait retrouvé un peu de feu sacré, et j'ai trouvé qu'il avait été très très bon sur cette promo. Et puis bah voilà, on est parti quoi, ça y est, l'histoire est lancée. Je pensais, pour ceux qui ont suivi le supplément SmackDown pendant des semaines et des semaines. Avec IRM, on en parlait souvent de cette lente construction qu'il y avait eu un peu entre le Miz et Daniel Bryan, qui s'évitait soigneusement. On trouvait toujours le moyen de les mettre dans des programmes parallèles, mais et qui avaient quelques connexions, mais sans jamais qu'ils s'affrontent vraiment. Je pensais que ça allait durer plus longtemps. C'est vrai que c'est une affiche que j'aurais pas vue à SummerSlam. Voilà, je pensais que la transition serait plus longue et que ça allait monter tranquillement jusqu'à WrestleMania. Non. Écoute, bon, moi, ça, là-dessus, je ne sais pas trop en quoi en penser. Déjà, quoi qu'il arrive, moi, je suis content qu'on l'ait, ce match.
Bon, l'important, c'est qu'on l'ait dans un des Big Four. Hein. Je pense SummerSlam,
Comment ?
Je dis, l'important, c'est qu'on l'ait dans un des Big Four.
Oui.
SummerSlam, c'est plutôt pas mal.
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Finalement, c'est déjà, quoi qu'il arrive, c'est déjà bien qu'ils aient une telle scène. Mais bon, voilà, on y est, ça y est, la rivalité est lancée, plus que, enfin, elle était déjà lancée, mais là, elle est complètement, elle est plus que lancée. J'ai trouvé l'échange top, et j'ai très, 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 très hâte de voir ce match, et de voir même la suite, en fait, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est pas une rivalité où j'attends uniquement que le payoff de la fin, que le match. J'ai même très très hâte de voir justement même les deux prochaines semaines, les échanges qu'il va y avoir, parce que voilà, je trouve qu'ils ont une alchimie naturelle. Ils ont une telle histoire, en fait, les deux, depuis NXT, hein, vraiment, hein, depuis que Daniel Bryan était le rookie du Miz, c'est quand même assez dingue, que voilà, c'est ça clique, ça marche, quoi.
Ouais, du beau boulot, même si on est effectivement dans un truc radicalement différent de ce que proposait Samoa Joe.
Ouais.
Mais voilà, bah en tout cas, voilà, elle est là, cette rivalité, bah il nous reste 2 semaines encore pour la savourer, puis on verra bien, hein, ça va peut-être pas se terminer à SummerSlam.
C'est ça, peut-être que ça va être quelque chose de très long.
Et il faut que ce soit long, hein, parce que c'est une des histoires les plus denses que nous propose la WWE depuis bien longtemps.
Oui.
Voilà, ils font du beau boulot, donc autant en profiter. Et on va arriver donc au fil rouge de l'émission. On revient au début, c'est Carmella qui ouvre le bal. Elle a une grosse promo à nous faire, puisqu'elle se livre à cœur ouvert, j'ai envie de dire. Elle nous raconte un peu sa genèse, hein, à NXT, en expliquant d'abord qu'elle a du respect pour Becky Lynch. Hein, croyez-le ou non,
oui.
Carmella a du respect pour Becky Lynch. Elle explique que quand elle était à NXT, personne ne croyait en elle. On devait la cantonner à un rôle de manageuse. Mais toujours, Becky Lynch était là pour lui donner du conseil et lui permettre d'évoluer. Donc au final, si elle en est là où elle est, c'est aussi grâce à Becky Lynch. Donc elle invite Becky Lynch à venir sur le ring. Discussion à cœur ouvert. Et finalement, la musique de James Ellsworth retentit, Becky Lynch se tourne vers le titantron, James Ellsworth qui est censé être viré, hein, il était viré la semaine dernière, Carmella met un coup de ceinture à Becky Lynch, évidemment, elle l'attaque dans le dos, tout ça n'était que mensonge et traîtrise, elle la passe à tabac, mais une musique retentit, c'est celle de Charlotte Flair qui débarque en talons et qui sauve Becky Lynch. Becky Lynch est sauvée. Un peu plus tard dans l'émission, il y a une petite discussion entre Paige, le general manager, et Carmella. Paige n'est pas contente, elle dit ce soir tu vas avoir un match contre Charlotte, si Charlotte gagne elle rentre dans le triple threat pour SummerSlam pour la ceinture. Alors c'est bien pour Charlotte, mais c'est pas très bien pour Becky Lynch, qui est pas trop contente, hein, puisqu'elle se retrouve à partager l'affiche. Ça lui fait une chance de moins de gagner. Elle qui a attendu patiemment, hein, depuis des années, d'avoir une chance pour le titre, elle se fait encore griller la priorité par Charlotte, puisque Charlotte, évidemment, dans le main event de la soirée, après un match exécrable, va gagner et donc se voit les portes ouvertes. C'était pas très, très folichon au niveau des filles, hein, cette semaine. Voilà, donc Charlotte Flair à sa place à SummerSlam, triple frite pour tout le monde. Beaucoup de gens râlent au niveau de... Tout le monde enterre Becky Lynch, hein, déjà, c'est-à-dire qu'elle ne va pas gagner, hein, d'après ce que tout le monde se dit. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Je suis assez embêté avec ça, parce que j'aime bien l'idée, mais j'ai un peu peur de là où ça va. Parce que déjà je m'y attendais pas du tout. Ils avaient réussi à me faire oublier un petit peu Charlotte avec toutes ces histoires de Becky Lynch qui remontaient, et justement c'était positif, hein, parce que justement la remontée progressive de Becky Lynch qui a accumulé les victoires, puisque pour booker un babyface, il faut accumuler les victoires, et qui accumulait les victoires tranquillement et qui reprenait du coup de la pop forcément, parce qu'elle gagnait, donc les gens reprenaient un peu de l'intérêt dans Becky Lynch, se dit ça y est, elle va pouvoir le faire, elle revient sur le devant de la scène. Elle a fait des belles promos et tout pour avoir son title shot. Donc, il y avait cette montée vraiment bien, bien réalisée. Et du coup, comme elle était bien bookée en tant que top babyface de la brand, bah, on pensait moins à Charlotte. Donc, ça a joué aussi au côté surprise du retour de Charlotte. Donc, j'aimais bien parce que du coup, initialement, je pensais que Becky Lynch allait enfin avoir son moment à SummerSlam. Là, maintenant, je suis un peu emmerdé parce que je trouve que c'est plutôt intéressant ce qui est proposé. Parce que ça on développe un peu cette rivalité presque historique aussi qu'il y a entre ces deux meilleures amies soi-disant là, Becky Lynch et Charlotte, donc ça peut être quelque chose de très sympa. Autour de ça, on propose aussi un développement un peu de personnage de Carmella et qui du coup a une occasion aussi de prendre un rôle de plus en retrait de stratège un peu, de peut-être de les retourner l'une contre l'autre et de jouer avec tout ça. Sauf que là où ça m'emmerde un peu, c'est que j'ai peur qu'on se dirige vers un turn de Becky Lynch avec tout ça. Et ça me ferait vraiment chier. Parce que j'ai quand même eu un peu l'impression que c'était ce qu'on racontait, que Becky Lynch était frustrée, que Becky Lynch n'était pas contente. Et du coup, ça sent potentiellement un peu le pétage de câble à venir sur Charlotte. Et si c'est le cas, il y aurait vraiment erreur de casting, je pense, parce que s'il y en a bien une qui ne doit pas turn.
Bah surtout qu'ils font, chez les filles, ils font tourner personne. Ouais, Sacha et Bailey, ça ne veut pas tourner. Nia Jax, on ne sait jamais si elle est gentille ou méchante. Ce serait dommage de faire un heel turn sur Becky Lynch, qui est quand même la catcheuse la plus populaire du roster. Hein.
Ah ouais, non, et puis c'est la babyface la plus naturelle, et
voilà,
c'est celle qui a le plus de potentiel, je trouve. C'est celle qui a le plus de potentiel vraiment pour être la top face d'une émission à la WWE, que ce soit par ses promos, son caractère, son personnage, son catch. Pour moi, elle incarne vraiment ça. Et à côté de ça, en plus, t'as une Charlotte qui a fait son trou en face, mais qui est quand même infiniment meilleure en heel.